Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
C'est seulement pour ceux qui persévèrent, après que tout semble perdu, que l'espoir luit à nouveau. Amis auditeurs, bonjour. Cette invitation de Chesterton à la fidélité et à la constance dans le combat nous encourage à tenir bon, alors même que tout semble perdu en apparence et qu'il serait plus facile d'abandonner. Cette vérité trouve une résonance particulière dans le combat que mène la minorité papoue en Indonésie depuis des dizaines d'années pour sa liberté. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour évoquer ce conflit passé sous silence, j'ai le plaisir d'accueillir Léo. Bonjour Léo.
Bonjour Joseph.
Léo, vous êtes spécialiste de l'Indonésie ?
Spécialiste ? Oh non, loin de là. Je suis plutôt un connaisseur de l'Indonésie. Et en effet, j'ai beaucoup lu et analysé l'histoire indonésienne à partir de diverses sources. Et je pense que le point de vue que je vais partager avec vous ce soir permettra une meilleure compréhension sur cette question.
Léo, est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte qui entoure ce conflit entre la minorité papoue et le pouvoir central indonésien ?
Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'il s'agit de l'un des conflits les plus longs et les plus meurtriers aussi de l'histoire, rarement couvert par les médias. C'est aussi un problème international, car c'est un véritable drame humain et écologique. Si quelqu'un prétend que la Papouasie occidentale est un problème indonésien, c'est parce qu'il ne connaît pas toute l'histoire ou c'est parce qu'il ment tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où se trouve la Papouasie et qu'est-ce que c'est que cette île au fond ?
La Papouasie est une grande île du Pacifique située à 200 km au nord de l'Australie. Et par rapport à l'archipel indonésien, elle se trouve à l'extrême est. Et l'île est divisée en deux en raison de son passé colonial. La partie orientale, elle a d'abord été colonisée par les Britanniques, ensuite les Australiens, et pour enfin devenir indépendant en 1975. Et la Papouasie occidentale était une colonie néerlandaise jusqu'en décembre 1961, date à laquelle les Papous ont déclaré leur indépendance. Mais deux ans plus tard, cette région a été annexée par l'Indonésie voisine, également une ancienne colonie des Pays-Bas devenue indépendante en 1949. Et ceci dans l'indifférence quasi générale. Et je tiens à souligner ici qu'à cette époque, on n'entendait qu'une seule voix discordante, celle du général de Gaulle, qui avait été auparavant averti par son ministre André Malraux.
C'est-à-dire que le conflit date de 60 ans, Léo ?
Oui, tout à fait. Ces trois générations, les Papous continuent à lutter contre le pouvoir central de Jakarta, parce qu'ils n'acceptent pas cette annexion. D'autant plus qu'un référendum appelé Acte de libre choix, organisé en 1969 sous l'égide de l'ONU, n'a été approuvé que par un millier de Papous sur une population d'environ 1 million à l'époque. Donc soit c'est 0,1% seulement. Et ceci sous pression de l'armée indonésienne. C'est un scandale, mais le monde s'incline parce que derrière tout cela, il y a des intérêts des grandes puissances, notamment américaines, qui souhaitent exploiter sans vergogne les grandes richesses minières de la Papouasie occidentale, en particulier son or et son cuivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce que le pape a dit au palais présidentiel de Jakarta au cours de sa visite en Indonésie septembre dernier.
Pas tout à fait, Léo. Si vous pouvez nous rappeler à moi et à tous les auditeurs ce que le pape a dit ce jour-là.
Alors, le souverain pontife a mentionné la plus grande mine d'or du monde qui appartenait à l'Indonésie et que ce n'était pas là la vraie trésor des Indonésiens. En fait, il a fait allusion à la mine de Grasberg en Papouasie occidentale exploitée par une filiale de l'entreprise américaine Freeport-McMoRan.
Léo, Ousmane Hamid, directeur d'Amnesty International Indonésie, disait la chose suivante, je cite, « La Papouasie est l'un des trous noirs de l'Indonésie dans le domaine des droits humains. C'est la région où les forces de sécurité ont pendant des années été autorisées à tuer des femmes, des hommes, des enfants, sans craindre de devoir assumer la moindre responsabilité. » Est-ce que vous partagez ce constat, Léo ?
Un directeur d'Amnesty International ne peut pas se faire une opinion sans données valables. Dans le passé, Amnesty a démontré son professionnalisme en dénonçant les crimes contre l'humanité au cours de 24 années d'occupation indonésienne du Timor oriental, de 1975 à 1999. Et il existe également d'autres ONG qui soulèvent régulièrement la question de Papouasie occidentale, telles Human Rights Watch et Human Rights Monitor. Et la plupart de ces données proviennent d'activistes sur place et d'organisations religieuses locales, tant catholiques que protestantes. Oui. Il faut savoir que le Timor oriental, tout comme le Papouasie-Occidental, sont des régions à majorité chrétienne, contrairement à l'Indonésie, qui est en majorité musulmane.
Si on se reconcentre sur le conflit entre Papouas et Indonésiens, Léo, quelles sont les causes exactes du conflit ?
Selon l'Institut indonésien des sciences, l'IPI, il existe 4 causes profondes. Premièrement, la confusion autour de l'histoire et le statut politique de la Papouasie-Occidentale. Et deuxièmement, la discrimination, ou précisément le racisme envers les Papous. En effet, ils sont mélanésiens, noirs de peau, à l'instar des Kanaks de Nouvelle-Calédonie et des aborigènes d'Australie. Donc, très différents des Indonésiens en général qui sont d'origine asiatique. Et troisièmement, la violence et le mépris des droits des autochtones. Et quatrièmement, un développement qui ne profite qu'au gouvernement et aux migrants venus de l'extérieur de la Papouasie. Aujourd'hui, les Papous sont minoritaires dans leur pays, représentant moins de 50% de la population de Papouasie-Occidentale, alors que leur pourcentage était supérieur à 90% avant l'annexion.
Si on compare la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Papouasie-Occidentale, est-ce qu'on peut observer des différences en termes de dynamique de démographie ?
Ah oui, bien sûr. En 1970, il y avait environ 1 million de... 1 million de Papous en Papouasie-Occidentale et 1 million de Papous en Papouasie-Orientale, qui est devenu aujourd'hui Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais aujourd'hui, en Papouasie-Occidentale, il n'y a que 2,5 millions de Papous, tandis que dans la partie indépendante, il y a plus de 9 millions.
Donc ça montre un complet décalage entre cette partie qui n'est pas indépendante, qui est la Papouasie-Occidentale et donc qui est une région de l'Indonésie, et la partie indépendante. Indépendante de la Papouasie, qui est plus communément appelée la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'aimerais approfondir avec vous, au fond, qu'est-ce que c'est que les revendications de cette Papouasie-Occidentale dont vous nous parlez là depuis quelques minutes ?
Les Papous ne revendiquent qu'une chose, c'est leur droit à l'autodétermination. Comme n'importe quelle nation dans le monde, ils souhaitent pouvoir se prononcer sur leur avenir, car ceci est garanti non seulement par le droit international, mais aussi par la constitution indonésienne qui stipule que l'indépendance est le droit de toutes les nations.
Est-ce que ça signifie que tous les Indonésiens étaient d'accord à ce moment-là, quand ils ont déclaré qu'il n'y avait pas d'indépendance pour la Papouasie-Occidentale ?
Non, pas de fait. Il y a beaucoup d'Indonésiens, en fait, qui ne sont pas d'accord avec cette annexion, mais leur voix est rapidement étouffée, on peut dire. Et si on regarde l'histoire, les pères fondateurs de l'Indonésie n'étaient pas tous d'accord pour que la Papouasie soit incluse dans le territoire indonésien, à commencer par Muhammad Hatta, le premier vice-président indonésien. Il fait valoir que les Papous étaient d'une race différente des Indonésiens, qui est du groupe ethnique malais. Et Hatta a d'ailleurs mis en garde son compagnon, le premier président indonésien Sukarno, contre ses éventuelles conséquences. Selon lui, l'Indonésie risquait d'être vue comme une nation impérialiste, et malheureusement, cela s'est révélé exact.
Et maintenant, Léo, où en est le conflit ?
Malheureusement, et l'Empire. Déjà en 2022, la Commission des droits de l'homme de l'ONU déplore l'existence de 60 000 à 100 000 civils déplacés à la suite des opérations militaires indonésiennes. Et bien que ce rapport ait été démenti par le gouvernement indonésien comme étant unilatéral et non professionnel, les images des exactions de l'armée indonésienne circulent tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ils sont aussi documentés par un média indépendant, Papou, Jubi, et il y a aussi Human Rights Monitor, qui fait état régulièrement de la situation des droits de l'homme en Papouasie-Occidentale. Bref, il ne se passe pas une semaine sans qu'un Papou ne soit arbitrairement arrêté, torturé ou même tué. Selon Emmanuel Gobay, Papou catholique et défenseur des droits humains, il y a actuellement plus de 50 000 soldats dans toute la Papouasie-Occidentale. Cela signifie qu'un soldat surveille environ 150 résidents. Cette hypermilitarisation a effrayé la population indigène, certes, mais elle a également rendu la résistance armée papoue, la TPNPB, plus agressive.
Vous nous parlez d'une hypermilitarisation, vous nous parlez de soldats. Est-ce qu'il y a réellement des violences qui sont faites envers les papous ? Est-ce que, par exemple, il y a des prisonniers politiques ? Est-ce qu'il y a des morts parmi les opposants papous ?
Oui, malheureusement, la violence n'a jamais cessé depuis 1963. On estime entre 100 000 jusqu'à 1,5 million de morts papous. Voilà. Et si je dois décrire ce que souffrent les Papous de l'armée indonésienne, je pense qu'il faut consacrer une autre émission, hein, c'est trop long, mais je vous invite à visiter le site de Human Rights Monitor, humanrightsmonitor.org, et là, vous aurez un aperçu de ce qui se passe là-bas.
Léo, on reprend tout de suite avec vous ce thème passionnant qui est l'histoire des Papous en Indonésie. Mais avant cela, je vous laisse, amis auditeurs, écouter cette magnifique musique. Amis auditeurs, vous venez d'écouter Ave Regina Pacis, un chant qui a été fait par les sœurs d'asile. Et nous retrouvons Léo qui nous parle du conflit entre la Papouasie occidentale et l'Indonésie. Léo, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre introduction. Vous parlez éventuellement de mensonges autour de ce conflit. C'est quelque chose dont nous n'entendons pas parler, nous, en tant que Français. Est-ce qu'il y a une omerta autour de ce conflit?
Ah oui, une omerta voulue même, je dirais. Alors, je m'explique. Lorsqu'on parle de mettre fin au colonialisme dans le Pacifique, la Papouasie occidentale aurait dû être le premier à avoir leur indépendance, c'est-à-dire au début des années 60. Hein. Mais au lieu de cela, c'est une injustice tragique et grave, car la Papouasie occidentale aujourd'hui reste l'un des derniers pays encore enchaînés sur la domination d'un régime militaire brutal soutenu par le capitalisme mondial.
Et je reviens au présent, Léo. Il y a quelques mois, l'Indonésie élisait un nouveau président, le président Prabowo. Est-ce que la situation évolue depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président?
Non, malheureusement. Et vous savez que Prabowo, c'était un ancien général au passé sulfureux. Hein. Il a été d'ailleurs fortement soupçonné d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors de l'occupation indonésienne du Timor oriental et aussi pendant... l'événement qui précède la réforme démocratique en 98. Oui. Et Prabowo est une est une élite militaire ultranationaliste. Et je dis que la situation ne va malheureusement pas évoluer dans le bon sens parce qu'ils n'offrent aucun espace de dialogue avec les Papous indépendantistes. Et Prabowo va même encore plus loin. Il a l'intention de relancer la transmigration, programme initié des décennies plus tôt par son beau-père, le dictateur général Suharto. Alors, pour dire simplement ce que c'est la transmigration, en fait, la transmigration, c'est une colonisation de peuplements soutenus par l'État. Voilà. Et les Papous craignent que ce programme qui va bientôt être relancé a pour conséquence leur marginalisation et enfin leur propre disparition. Prabowo promeut également des méga-projets stratégiques nationaux au nom de l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Pour vous décrire l'ampleur de ce programme, rien que dans la région de Merauke, au sud de la Papouasie-Occidentale, c'est la principale base du catholicisme papou, 2 millions d'hectares de forêt, aussi grande que la forêt suisse, sera défrichée, 1 million pour la culture de riz et 1 autre million pour la culture de canne à sucre. Les activistes papous n'hésitent pas de qualifier ces projets d'écocide, car ils risquent d'accélérer le réchauffement climatique. Il faut savoir aussi que la Papouasie est le troisième poumon de la planète, où il y a des forêts primaires, après l'Amazonie et le Congo.
Est-ce que l'Église prend parti et prend une position dans ce conflit ?
Alors, au niveau du clergé, oui, mais malheureusement, au niveau de la hiérarchie, non. De nombreux papous se demandent d'ailleurs pourquoi la hiérarchie de l'Église ne fait peu ou pas grand-chose pour protéger leurs droits ou au moins relayer leurs aspirations. Selon des données de l'Agence nationale indonésienne des statistiques, le BPS, en 2020, il y avait 940 000 catholiques et 2,4 millions de protestants dans toute la province indonésienne de Papouasie. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu jusqu'à présent un soutien significatif de la part de l'Église universelle, comme si la chrétienté papou ne compte pas ?
On sait que l'Indonésie, c'est un pays qui est largement musulman. Est-ce qu'en Papouasie occidentale, qui est donc une culture propre avec un peuple bien spécifique, il y a une histoire chrétienne peut-être ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des missionnaires qui ont pu évangéliser, qui ont fait de cette terre une terre particulièrement chrétienne ? Ou est-ce que vous diriez qu'elle se fond avec l'Indonésie et que finalement, elle est à grande majorité musulmane ?
Alors, le contexte de l'évangélisation papou est très différent que celui de l'Indonésie, hein. Parce que la mission en Papouasie occidentale a commencé très tard, en fait, seulement au milieu du 19e siècle. Ça a commencé avec l'arrivée d'un certain Otto et Geisler, missionnaires protestants, et puis 50 ans plus tard, des missionnaires catholiques sont arrivés, notamment le jésuite, le père Lecoq d'Hermanville. Contrairement à l'Indonésie, où les missionnaires se sont heurtés à la résistance des rois locaux, et aussi la persécution de la Compagnie des Indes néerlandaises qui était fortement protestante, hein, anticatholique. En Papouasie, l'évangélisation s'est déroulée plutôt sans heurts, je dirais. Hein, et ce qui fait qu'en moins d'un siècle, les Papous ont embrassé le christianisme, soit le protestantisme, soit le catholicisme. Et il y a à peu près 2/3 protestants et 1/3 catholiques.
Est-ce que Léo, vous nous parlez donc de ce conflit entre Papous et Indonésiens avec une hypermilitarisation et des violences de la part des Indonésiens. Comment répliquent les Papous ? Est-ce que leur lutte, est-ce qu'ils prennent les armes pour défendre leurs droits ? Est-ce que vous diriez que ils essayent d'avoir une vision pacifique de ce conflit ?
Certes, il y a certains Papous qui sont tentés de se venger par la violence, hein. Je vous ai évoqué au début de l'émission l'existence de la TPNPB, qui est une des plus anciennes armées de libération dans l'histoire. Il faut dire qu'ils sont violents. Hein. Mais la plupart des Papous luttent de manière non violente. Je peux vous évoquer peut-être ce qui se passe là en ce moment. Les Papous sont en train de planter des croix, notamment dans les zones où le gouvernement entame le projet stratégique national. Oui. Rien que dans la région de Merauke, il y a déjà 1400 croix qui ont été érigées. Oui. Et les Papous ne comptent que sur l'aide de Dieu pour les protéger.
Les Papous sont donc chrétiens, vous nous dites, ils ont l'aide de Dieu. Est-ce que face à ces violences indonésiennes, il y a des figures de martyrs? Est-ce que vous avez des histoires en tête, peut-être, et pour faire mémoire aussi de leur courage, raconter à tous nos auditeurs des figures inspirées des martyrs papous?
Oui, alors, mais avant de parler de papous, j'aimerais souligner que quand on parle de papous chrétiens, c'est à la fois catholique et protestant. Et je trouve que la chrétienté papou est un modèle d'œcuménisme parce que les protestants et les catholiques travaillent main dans la main dans leur lutte contre le colonialisme. Le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, des représentants de toutes les confessions chrétiennes papoues, catholiques et protestantes, ont déclaré le rejet des projets stratégiques nationaux du régime de Prabowo.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'un martyr, peut-être, d'un catéchisme?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de martyrs en Papouasie. Premièrement, c'est les martyrs de la liberté. Hein. C'est centaines de milliers de papous qui sont morts juste à cause de leur aspiration à vivre libre sur leur terre ancestrale. Et puis, il y a aussi des martyrs de la charité, des pasteurs, des catéchistes, des séminaristes assassinés parce qu'ils défendent leurs compatriotes. J'en connais une dizaine. Donc, le catéchiste Rufinus Tigau, 28 ans, tiré par balle par des militaires indonésiens en 2020 à Intan Jaya. Rufinus, comme tant d'autres personnels de l'église papoue, a été tué pour être soupçonné d'être membre ou sympathisant du groupe de combattants armés papous. En fait, son parcours éducatif et sa carrière de catéchiste permettent de refuter cette accusation odieuse. Après son assassinat, le diocèse de Timika a d'ailleurs confirmé que Rufinus était simplement un employé de l'Église et les fidèles qu'il a servis se souviennent de lui comme un leader laïque dévoué et exemplaire. Et selon un prêtre papou étudiant à Rome, il y a eu récemment une discussion au sujet de Rufinus au dicaster pour les causes des saints. Donc il est possible que Rufinus soit en voie vers la béatification. Il est aussi bon de mentionner Sylvester Hisage. Il est séminariste du diocèse de Manokwari-Soron et à mon sens il mérite aussi d'être béatifié, mais pour l'instant pas de démarche de la part de l'évêque local en ce sens. Sylvester a été retrouvé mort dans un fossé à la veille de Noël en 2020. Il était connu pour son activité, notamment sur les réseaux sociaux en faveur de la justice pour les opprimés. Et avant sa mort, Sylvester a publié sur son compte Facebook « Parlez fort, car votre voix résonnera dans tout le pays. Les carcasses et les os du peuple papou, de ses ancêtres et du Seigneur Dieu seront toujours parmi vous. »
Ça, c'est tout ce conflit. Il se déroule à l'autre bout du monde, Léo. Est-ce qu'il y a un soutien politique européen pour les papous?
Oh, pas vraiment. Parce que défendre la cause papou ne rapporte pas des voix pour les politiciens. Mais toutefois, au Royaume-Uni, s'il y a quelques politiciens comme Jeremy Corbyn, de Parti Travailleur, si je ne me trompe pas, et puis ancien Premier ministre britannique, régulièrement, il soulève la question papou. Et puis dans la Chambre des Lords, il y a Lord Harris qui défend activement la cause papou. Et puis si en France, il n'y a pas de politiciens qui parlent des papous, c'est probablement pour des raisons économiques, car l'Indonésie est un gros client de la France dans le domaine de l'armement. Hein. Il y a quelques années, l'Indonésie a commandé une vingtaine de rafales, plusieurs sous-marins Scorpène, hein, des canons César, et puis tout un tas d'armements hein, de la France. Donc il y a cette raison-là, malheureusement, aussi.
Est-ce que, pour finir, vous voyez une solution à ce conflit? Est-ce que vous voyez quelque chose qui permettrait aux deux parties de s'entendre et que tout ça débouche dans la paix?
Alors, des solutions, certes, il y en a. Et à mon avis, il n'y a que deux. Hein. Donc, la première, c'est la solution violente, comme l'a fait jusqu'à présent le gouvernement indonésien, c'est-à-dire continuer ses opérations militaires, ses projets de développement, son islamisation et sa transmigration. Et puis, une autre solution pacifique serait que Jakarta prenne l'initiative de démilitariser la région et de préparer les Papous à l'indépendance. Mais ceci demande beaucoup de bonne volonté et d'humilité aussi.
Un dernier mot peut-être en 10 secondes, Léo?
Oui.
Pour les auditeurs, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel message vous voulez laisser à nos auditeurs en cette fin d'émission?
Alors, j'ai deux messages. Premièrement, priez pour les Papous et n'hésitez pas à parler d'eux autour de vous. Et puis, deuxièmement, encouragez vos évêques à se prononcer pour la question, parce que le problème papou est aussi un problème français. Je parle dans le cadre de l'Église catholique, l'Église universelle. 1.
Merci beaucoup Léo, merci à vous aussi amis auditeurs de toujours nous écouter pour votre fidélité. Je vous rappelle qu'il est possible d'accéder au podcast, n'hésitez pas à le partager. Amis auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine, que la paix soit avec vous.